Soit votre partage. Je vous propose de lire avec moi ce matin dans l'évangile de Jean. Nous allons lire au chapitre 15 de l'évangile de Jean, du verset 1er jusqu'au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous plongeons nos regards en elle maintenant et nous sommes heureux d'avoir un Dieu tel que toi. Merci parce que, au travers de ta parole, tu veux nous montrer quelle est ta volonté. Et nous te louons parce que tu es rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Tu es amour. Et c'est avec joie que nous pouvons te louer, te rendre grâce, te glorifier, parce que nous sommes les bénéficiaires d'un si grand salut. Seigneur, bénis ces moments de méditation et que dans nos cœurs, par l'action de ton esprit, tu puisses mettre cette joie dont il est question dans ta parole, cette joie qui est la tienne, même dans les circonstances les plus difficiles, cette joie qui est le fruit de ton esprit. Seigneur, nous comptons sur toi et nous voulons te rendre grâce de tout notre cœur et dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les prédications et dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus, il y a un thème qui revient fréquemment et un thème qui a une grande importance. Ce thème est en rapport avec cette question de l'égalité avec son Père. Dans plusieurs versets, qui se trouvent d'ailleurs dans l'évangile de Jean, il est mis en relief que Jésus est l'égal de son Père. Il est Dieu. Et cette affirmation est importante, parce que si nous ne reconnaissons pas Jésus comme étant Dieu, la Bible dit très clairement qu'alors nous demeurons dans notre péché, et nous ne pouvons pas être sauvés. Mais Jésus a présenté cela d'une façon tellement claire, tellement évidente, qu'il est impossible de passer à côté de cette réalité sans nous en apercevoir et sans aussi glorifier Dieu, parce qu'il nous a envoyé son propre Fils, par lequel chacun d'entre nous, nous pouvons avoir l'assurance du salut et de la vie éternelle. C'est ce qui explique que la plupart d'entre nous, ce matin, avec joie, puis aussi dans la paix, nous avons pu remercier le Seigneur pour le salut dont nous sommes les bénéficiaires, alors que nous savons tous, autant que nous sommes, que nous ne méritons rien par nous-mêmes. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts personnels, n'est pas le résultat de nos mérites, mais le salut, et nous l'avons chanté, et tellement bien chanté tout à l'heure, c'est le résultat de la grâce de Dieu agissante dans nos vies et dans nos cœurs. Il y a une démonstration dans les paroles de Jésus qui est faite au travers de ces petits mots qui reviennent très souvent. Dans l'évangile de Jean, eh bien, Jésus se présente comme étant le « Je suis ». Vous lirez l'évangile et vous allez vous rendre compte du nombre de fois où Jésus parle de cette manière-là. Il dit par exemple « Je suis le pain de vie », évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 7. Un peu plus loin, il dira « Je suis le pain vivant, descendu du ciel », Jean chapitre 6 et le verset 51. Il dira « Je suis la lumière du monde », toujours dans le même évangile de Jean au chapitre 8. Il dira « Je suis la porte des brebis », chapitre 10 et le verset 7. Un peu plus loin, il ajoute « Je suis le bon berger », chapitre 10, verset 11. « Je suis la résurrection et la vie », chapitre 11. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi Jésus insiste-t-il tellement en se présentant de cette manière-là, commençant chacune de ses déclarations par « Je suis ». Eh bien, tout simplement, pour prouver encore une fois qu'il est Dieu. Car dans l'Ancien Testament, vous savez, au moment où Dieu s'est révélé à Moïse, ce dernier a voulu savoir qui il était. Et il a posé la question « Quel est ton nom ?» Et la réponse de Dieu a été « Je suis celui qui suis ». Donc Jésus, en utilisant cette expression-là, est en train de mettre en relief « Je suis Dieu ». Et il le fait exprès, puisque au verset 24 du chapitre 8 de ce même évangile, il est dit « Ceux qui ne reconnaissent pas cela et qui ne croient pas ce que je suis ». Mais je voudrais apporter ici un petit détail. Dans notre traduction, il est dit « Celui qui ne croit pas ce que je suis ». Mais dans le texte grec, il est dit « Celui qui ne croit pas, je suis ». Le petit « ce » a disparu, il n'y est pas. Celui qui ne croit pas, je suis, il ne peut pas être sauvé. Ça, c'est une chose formidable. Si dans notre cœur, nous avons accepté Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui a tout accompli pour nous sur la croix, en versant son sang afin que nous soyons lavés et purifiés de tout péché, alors nous pouvons nous réjouir, éclater de joie et dire « Seigneur, je te rends grâce parce que à cause de ce que tu es et de ce que tu as accompli, non pas à cause de ce que je fais ou ce que je vais faire, mais à cause de ce que tu es et de ce que tu as fait, je peux dire aujourd'hui que je suis sauvé. Mais maintenant, il y a un enseignement particulier que Jésus apporte au travers de cette métaphore en faisant cette déclaration « Je suis le cep et mon père est le vigneron ». Je voudrais m'arrêter ici un instant. J'ai bien dit, il s'agit d'une métaphore, ce n'est pas une parabole. Une parabole, elle a une explication qui peut être donnée d'une manière séparée. Mais une métaphore a les éléments explicatifs en elle-même. Je suis le cep, Jésus, mon père est le vigneron, Dieu. On ne peut pas se tromper, c'est un langage qui est clair, qui est mis à la portée de tout le monde. Un enfant peut comprendre cela. Et à ce moment-là, il ajoute ce fait, vous êtes les sarments. La question se pose, vous êtes les sarments, mais un peu plus loin, il dit, il y en a qui portent du fruit et il y en a qui ne portent pas de fruit. S'agit-il donc de tous les disciples du Seigneur, productifs et improductifs, à qui cette parole s'adresse à ce moment précis? Il nous faut replacer le texte, comme toujours nous avons l'habitude de le faire, dans son contexte. Et précisément, quelques chapitres au préalable, notamment au chapitre 13, Jésus s'adresse à ses disciples d'une manière un peu particulière. Je dirais qu'il a une attitude qui est absolument remarquable. Il nous démontre son humilité parfaite. Et il est dit au verset 1er du chapitre 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses vêtements, il s'est ceint d'un linge, exactement comme n'importe quel serviteur pourrait le faire. Lui, le maître, eh bien, est devenu celui qui sert et il va laver les pieds de ses disciples. Mais vous savez aussi bien que moi, parce que vous connaissez ce texte, qu'il y a eu une réaction de la part de l'un des disciples qui s'appelle Pierre et qui a dit « Ah non, Seigneur, non, pas toi, toi tu es le maître ». En quelque sorte, il n'acceptait pas que celui qui l'appelait rabbi, maître, puisse ainsi s'humilier à un tel point de lui laver les pieds. Et Jésus a parlé avec une grande solennité à Pierre et lui a dit, si je ne te lave les pieds, eh bien tu n'auras pas de part dans le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, Pierre a dit, oh mais alors à ce moment-là, eh bien je veux que tu me laves entièrement. Et Jésus a dit, non, celui qui a été baigné une fois pour toutes n'a plus besoin d'être lavé complètement. Mais nous savons tous que pendant notre marche ici-bas sur la terre, bien qu'ayant la foi, bien qu'aimant le Seigneur de tout notre cœur, il nous arrive quand même de nous souiller par les choses de cette terre. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la parole de Dieu vient nous laver. Et quand Pierre a eu cette réaction, Jésus lui a dit, déjà, vous êtes tous purs, mais non pas tous, parce qu'il y en avait un, et nous savons qui il est, c'est Judas, qui lui n'avait pas été purifié. Il avait entendu la parole comme les autres, il se comportait comme les autres, il priait comme les autres, il agissait comme les autres. Je voudrais simplement vous faire remarquer qu'à un moment donné, tous les disciples, au nombre de 12, sont venus vers le Seigneur Jésus. Et lui ont dit, Seigneur, c'est formidable, nous voyons la puissance de Dieu se manifester et nous avons vu la puissance de Satan est bien tombée. C'était comme, disons, la foudre qui tombait par terre. Et le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas tellement de ça. Mais écoutez ce qu'il a ajouté. Réjouissez-vous surtout de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais le nom de Judas ne pouvait pas y être inscrit. Et d'ailleurs, juste après cela, il y a eu ce moment que nous avons aussi célébré ensemble, que nous avons l'habitude d'appeler la Sainte Cène, le repas du Seigneur, l'Eucharistie dans d'autres endroits. Et c'est à ce moment-là que Judas s'est dévoilé. Et la Bible dit que lorsque Jésus a trempé le pain dans un produit particulier, comme c'était toujours la coutume parmi les Juifs, et qu'il l'a donné à Judas, alors il est dit, le démon est entré en lui et il sortit. Donc Judas n'est plus. Et quand Jésus s'adresse maintenant à ses disciples en disant, je suis le cep et vous êtes les sarments, Judas n'y est plus. Ceux qui sont les sarments produisant du fruit, ce sont les disciples qui lui sont restés fidèles, ceux qui ont demeuré en lui. Et je voudrais souligner un fait, c'est que ceux qui entendaient cette parole-là, eh bien, ne pouvaient pas être dans la surprise, dans l'étonnement. Cette comparaison « je suis le cep et mon père est le vigneron », ça ne pouvait pas paraître étrange aux disciples parce qu'ils connaissaient l'Écriture. Et déjà dans l'Ancien Testament, l'Écriture pour eux, c'était l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ésaïe, eh bien voilà comment Dieu parle de son peuple au travers du prophète Ésaïe. Il dit, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué le sol, il a ôté les pierres, il a mis un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve, etc. » Ça veut dire qu'il a pris beaucoup de soin pour cette vigne. Et nous comprenons tous que cette vigne dont il est question, c'est le peuple d'Israël, qu'il a arraché de l'esclavage en Égypte et qu'il a transplanté dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de la promesse. Et il pose la question, que n'ai-je pas fait pour elle ? Tellement il a démontré de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, tellement il a été patient à l'égard de ce peuple sans cesse rebelle, contredisant, qui, en quelque sorte, remerciait Dieu pour sa bonté et sa justice par des actes coupables et même en tombant dans l'idolâtrie, s'éloignant de plus en plus de lui. Et alors il y a eu une conséquence. Et Dieu a dit, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Mais voilà, comme ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, comme ils ne se sont pas soumis à ces commandements de Dieu, comme en réponse à l'amour, à la miséricorde, ils n'ont eu que de l'idolâtrie à manifester, alors Dieu a mis de côté ce peuple. Mais évidemment, nous savons tous que c'est pour un temps. Viendra aussi le temps où ce peuple reconnaîtra celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont offensé. Mais mettant de côté ce peuple, alors maintenant il se présente et en quelque sorte il dit « Je suis le vrai cep ». Dans d'autres traductions, il est dit « Je suis la vigne ». C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pour être agréable à Dieu, n'avait qu'une seule chose à faire, c'est obéir à ses commandements. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'aucun d'entre nous, d'ailleurs, ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Alors, quelqu'un dira au milieu de nous, mais pour quelle raison il y a eu la loi de Dieu si personne ne peut obéir? Si personne est capable de se soumettre à cette loi de Dieu, pourquoi l'a-t-il donnée? Simplement pour mettre en relief le péché qui est caché dans nos cœurs et dans nos vies. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Comme un pédagogue, elle nous conduit à Christ, parce que la loi nous montre ce que nous sommes par nature. Quand la loi dit « tu ne commettras pas adultère », elle met en relief ce qui se cache comme immoralité dans notre cœur. Quand la loi dit « tu ne mentiras pas », elle met en relief le caractère de mensonge qui si souvent se trouve manifesté dans notre nature. Le cœur humain, dira le prophète Jérémie, eh bien, il est mauvais, méchant, plus que tout. Et un autre prophète dira, depuis la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux, tout est plaie, contusion, tout est corruption chez l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a renfermés tous dans la désobéissance. Tous nous savons que nous sommes coupables. Mais c'est aussi pour faire grâce à tous. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ici, il se présente et il dit, « Ah, maintenant, je suis le vrai cep, c'est-à-dire que c'est de lui et de lui seul que peut couler la vie éternelle qui nous permet de marcher en vainqueur sur le péché et sur le mal. » C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans son épître qu'il adresse à Tite la chose suivante. Il dit, nous avons été baptisés du baptême de la régénération et renouvelés par la vie de l'Esprit. Et cette vie de l'Esprit, c'est cette sève qui coule en nous quand nous avons la foi en Jésus. Quand nous avons placé notre confiance en Christ, quand nous nous reposons sur ses promesses, quand nous croyons non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il a fait pour que nous ne soyons plus condamnés, mais que nous soyons avec lui pour l'éternité, alors la vie de l'Esprit coule en nous et c'est une force qui nous permet de marcher en vainqueur sur le péché. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Et un vigneron, il a une tâche particulière. Et une des tâches qu'il doit accomplir, c'est l'émondage. Comment est-ce que Dieu va émonder? Eh bien, il a un couteau spécial. Le couteau spécial s'appelle la parole de Dieu. Et quand nous laissons la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, pénétrer dans notre vie, agir en nous par l'action de son esprit, alors il met en relief certaines choses qui dans notre vie ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et il ne le fait pas pour nous humilier, pour nous écraser. Non, Jésus dira même ceci, il vous émonde afin que vous portiez du fruit, et il ajoute, si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père est glorifié. Nous n'avons donc pas d'autre moyen de glorifier Dieu et que Dieu soit glorifié que par une vie de sainteté, une vie qui est dégagée de la puissance du mal et nous ne sommes plus sous le contrôle de l'ennemi de notre âme, mais sous le contrôle de son esprit. Et d'ailleurs, un certain prédicateur qui a été mondialement connu, pour ne pas cacher son nom, il s'agit de Charles Spurgeon, dont la plupart d'entre nous ont dû entendre parler, a dit, si nous étions davantage attentifs à ce que nous dit la parole de Dieu, Dieu n'aurait pas besoin d'utiliser le couteau de l'épreuve pour enlever le mal qui souvent se cache en nous. Le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Et donc Dieu est obligé d'émonder. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne coupe pas, bien sûr, tous les sarments. Il retranche ceux qui ne portent pas de fruits. Et encore, il les dit, il émonde afin qu'ils puissent porter plus de fruits ceux qui portent déjà quelque chose. Je me suis un peu renseigné et je sais qu'il y a des vignerons qui travaillent de cette manière-là. Il y a des branches inutiles, des sarments inutiles, ils les retranchent. Mais vous savez, qu'ils soient hantés sur le cep, c'est-à-dire qu'ils soient attachés au cep ou pas, un sarment qui ne porte pas de fruits, il ne sert à rien, parce que même lorsqu'il est coupé, la seule chose que l'on peut faire, c'est le brûler. Et un certain prophète dira que même avec un sarment, on ne peut pas faire une cheville dans laquelle on pourrait mettre un clou pour retenir quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est inutile. Vous voyez, ça met un coup à notre orgueil, ça. Parce qu'on a toujours tendance à croire, « Ah, mais je suis quelqu'un de bien. Oh, mais moi, quand même, je ne suis pas comme les autres, vous savez, comme le pharisien, qui disait, « Je te loue, Seigneur. » Parce que moi, je ne suis pas comme le publicain là-bas au fond. Et cet homme s'enorgueillissait. Mais la Bible enlève tout cela. Elle émonde. Elle nous met au même niveau. Elle dit, mais non. Mais même quand tu as tout accompli, et c'est Jésus qui enseigne cela, même un serviteur, quand il a tout fait, obéi, tout accompli, il est encore appelé serviteur inutile. Savez-vous pourquoi ? Parce que tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas le faire de notre propre fond, nous ne pouvons le faire que par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit, c'est lui en nous et au travers de nous qui peut faire les œuvres qui glorifient Dieu. D'ailleurs, quand il nous a régénérés, l'auteur de l'épître aux Éphésiens, c'est-à-dire l'apôtre Paul, au chapitre 2, dit qu'il nous a régénérés et sauvés pour que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Or, dans un autre passage, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire, dont nous ne pouvons faire la volonté de Dieu qu'à une condition, que l'Esprit de Dieu règne dans notre cœur et dans notre vie. Mais il y a ceux qui sont là, attaché au cep, mais je dirais attaché au cep sans tirer la sève qui leur permet de porter un fruit qui est à la gloire de Dieu. Vous allez dire, mais est-ce que c'est possible cela ? Et oui, c'est possible, puisque Dieu lui-même en parle ici. Et vous allez dire, mais pourtant, Jésus dit que celui qui demeure en lui, ou qui est en lui plutôt, et qui ne porte pas de fruits, il va le retrancher. Il est en lui. Alors quelqu'un dira, il y a donc des chrétiens qui, tout en étant en lui, vont être retranchés. Je voudrais vous dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte d'une manière différente une expérience négative. Elle dit une terre qui est souvent abreuvée de l'eau, qui est au bénéfice de la bénédiction du ciel, de la bénédiction de Dieu, et puis qui, au lieu de rendre, je dirais, le bien que cette terre reçoit du ciel, par des arbres qui sont capables de nourrir, de réjouir le cœur de l'homme, elle produit que des ronces et des épines, eh bien, cette terre-là, un jour, elle est livrée au feu et elle doit être bannie, châtiée de cette manière-là. Eh bien, regardez ici, il y en a un qui était avec Jésus, mais qui n'appartenait pas à Jésus. La preuve, c'est qu'il dit « Vous êtes tous purs, sauf un ». Et l'évangéliste lui-même dit que quand Jésus a parlé de cette manière-là, il désignait Judas. Or, même dans son épître, la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 19, Jean dira ceci au sujet de certaines personnes qui sont parties. Et il a dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que certains disaient, mais comment ça se fait? Ils ont été au bénéfice comme nous, comme les autres. Ils ont disparu. Alors ici, je voudrais attirer votre attention, mes frères et sœurs. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ils étaient avec nous, mais n'étaient pas des nôtres. Je ne suis pas en train de dire, ils étaient avec nous dans l'église évangélique, ils ne sont plus, alors ils sont perdus. Je ne suis pas en train de dire, ils n'étaient pas avec les protestants dans leur église et ils sont partis et ils sont perdus. Je ne suis pas en train de dire, ils étaient avec les catholiques et ils sont sortis et ils sont perdus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire protestant, évangélique, catholique? L'église de Jésus-Christ, c'est pas l'église évangélique. L'église de Jésus-Christ, c'est pas uniquement l'église catholique. L'église de Jésus-Christ, c'est pas l'église protestante. L'église de Jésus-Christ, elle est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau et en qui la vie de Dieu demeure. Et si on n'est pas hanté de cette manière-là, si la vie de Dieu ne coule pas en nous, et si nous ne demeurons pas dans cet amour de Dieu, cette grâce que nous avons chantée tout à l'heure, si on ne demeure pas là, alors nous sommes coupés de Dieu, et donc nous sommes prêts pour être livrés au feu. Et c'est une chose importante que nous sachions bien où nous en sommes dans ce domaine-là. Il y a des chrétiens factices qui professent leur foi sans connaître le Seigneur. Mais le titre qu'ils arborent, c'est le titre de chrétien. Jésus n'a jamais pourtant considéré Judas comme un disciple sincère. La preuve, c'est le verset que je vous ai cité et qui est sorti de la bouche de Jésus. Il a dit, vous êtes tous purs, mais non pas tous. Et il est ajouté, c'est de Judas qu'il parlait. Donc, il y a en même temps un passage que j'ai eu l'occasion de présenter aussi et qui est un solennel avertissement. Jésus dira, un jour viendra où certains se présenteront devant moi et diront, mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et la réponse de Jésus est, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous voyez, comme la grâce, c'est important de la saisir. Ça se saisit par le moyen de la foi. C'est quelque chose qui en même temps nous réjouit, parce que moi, si je devais être sauvé par mes mérites, mais je serais vraiment affolé en cet instant-là. Et l'angoisse serait dans mon cœur. Je ne pourrais pas chanter avec joie. Je ne pourrais pas parler de repos comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je ne pourrais pas parler de paix. Mais parce que je sais que je ne vaux rien, mais que lui a tout fait, alors je peux dire, Quel repos céleste. Jésus, d'être à toi et de savoir qu'un jour viendra où il va venir me chercher et je serai avec lui pour l'éternité. Vous voyez, c'est important de savoir que ces gens qui prétendaient avoir fait tant de choses pour le Seigneur, eh bien, lui, il ne les connaît pas. Parce que on peut avoir l'apparence du chrétien. On peut avoir cette apparence. Mais la vraie foi, elle a une nature particulière. La vraie foi, elle ne peut pas faire autrement que de se soumettre. C'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, c'est le principe de la vie éternelle. Si j'ai la vie de Dieu, alors oui, je vais aimer le Seigneur par-dessus tout. Et c'est pourquoi il est dit là, eh bien, celui qui demeure dans mon amour, eh bien, c'est en celui-là que moi aussi je demeure. C'est formidable de savoir que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que moi je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. C'est tellement formidable cela. Et demeurer dans son amour, eh bien, c'est quoi qu'il arrive dans mon expérience de tous les jours, quelles que soient les circonstances que je peux traverser, je ne dois jamais oublier que le regard du Seigneur ne se détourne jamais de moi si moi-même je ne détourne jamais les regards de lui et que je n'oublie jamais ce qu'il a fait pour que je sois appelé enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas laisser l'avantage à l'adversaire de mon âme. Et aimer le Seigneur, ça va me préserver à l'heure de la tentation. Parce que, évidemment, parce que nous lui appartenons, et il y en a un qui n'est pas content, vous le savez, n'est-ce pas? Et celui qui n'est pas content, c'est celui à qui nous avons été arrachés par la grâce de Dieu. C'est l'ennemi de notre âme dont l'Écriture dit qu'il rôde autour de nous comme un lion cherchant qui il dévorera. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui demeure dans l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui médite la parole avec soin, qui est attentif, qui est à l'écoute de ce que le Seigneur dit. C'est quelqu'un qui découvre dans l'Écriture quelle est sa volonté et qui chaque jour demande au Seigneur le secours d'un mot pour pouvoir marcher dans ses voies comme lui-même nous dit de le faire. Attention mes frères et sœurs, rien n'est plus terrible que l'apparence au niveau de la foi. Il y a un autre témoignage que l'on peut tirer de l'Écriture. Vous connaissez ce texte où il est dit que Jésus, un jour, passait avec ses disciples devant un arbre magnifique. Il avait des feuilles en abondance. Vous avez remarqué, les sarments, il n'est pas question de feuilles, il est question de fruits. Les sarments sont émondés pour qu'ils portent plus de fruits. Et en réalité, c'est une chose importante. Les feuilles, ça n'intéresse pas le vigneron. Eh bien, Jésus est passé devant cet arbre magnifique. C'était un figuier, aussi symbole du peuple d'Israël. Des feuilles en abondance. Mais il est dit, ce n'était pas la saison des figues. Alors, ça, c'est un peu choquant, parce qu'on se dit, Jésus eut faim, et il s'est approché de l'arbre, et il voulait cueillir des figues. Mais il n'y en avait pas. En plus, il est ajouté, ce n'était pas la saison des figues. Mais il y a un frère qui est ici au milieu de nous, d'ailleurs ce matin, et qui, je crois, dimanche dernier, nous parlait aussi d'une caractéristique particulière de ces figuiers. C'est qu'il y a deux saisons. Il y a la saison de la figue en tant que fruit, il y a la saison de la figue que l'on appelle figue-fleur, mais qui est aussi bonne à manger. Jésus avait faim, il pouvait trouver au moins, même si ce n'était pas la saison du fruit, des figues-fleurs, dont il pouvait se nourrir, mais il n'y avait même pas cela. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il a prononcé cette parole, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et il a été maudit, et immédiatement il a séché jusqu'aux racines. Il faut dire quelle est l'autorité de la parole du Seigneur. Parole créatrice. Il dit et la chose arrive. Mais dans le sens inverse, vous voyez, il maudit là cet arbre et il sèche jusqu'aux racines. Oh mes frères et sœurs, toute l'écriture est faite pour inspirer la crainte dans notre cœur, non pas la peur. Quand je dis crainte, je parle de respect de Dieu. Comme un fils respecte son père, l'aime et a peur de faire quoi que ce soit pour en quelque sorte blesser son cœur de père. Mais nous devons vivre dans cette crainte respectueuse de Dieu. Quelque part il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème un jour ou l'autre, on le récolte. C'est la raison pour laquelle il nous appelle toujours à l'obéissance. Et même quand nous sommes tombés dans notre marche avec le Seigneur, il est capable de nous tendre une main salvatrice. Il nous relève et il dit, allez, en avant, je suis celui qui te sauve. Mais encore faut-il le croire. Et le croire, c'est le saisir avec le cœur et se réjouir de ce salut-là. Et c'est comme cela qu'il crée en nous une sorte de dynamisme qui nous permet de marcher en vainqueur. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons chanter plus que vainqueur, par celui qui nous fortifie. Le Seigneur donc a donné un solennel avertissement ici, et nous devons être attentifs quand nous lisons l'Écriture et qu'en lisant quelque chose apparaît qui nous concerne et qu'il met le doigt sur quelque chose que nous n'avons pas fait ou que nous ne faisons pas ou que nous ne pratiquons pas, il le fait pour que nous réagissions et que nous crions vers lui. Et la Bible dit, celui qui crie vers lui, l'Éternel entend et il vient le secourir. Et c'est comme cela que nous pouvons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, jusqu'au jour formidable où vous et moi, eh bien, nous entrerons dans le ciel et nous passerons l'éternité avec lui. Mais en attendant, si nous prenons en considération ces choses, eh bien, il y a une joie qui va régner dans notre cœur. C'est pourquoi le texte se termine en disant, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Prenez conscience d'un fait, c'est que lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il était à la veille de la souffrance la plus extrême qui soit, dont la lecture de la parole de Dieu au moment de la Sainte Cène tout à l'heure a mis en relief le prix que le Seigneur a payé. Il est dit que, comme un agneau muet, il est allé jusqu'à justement être abattu pour que nous, nous soyons participants du salut et de la vie éternelle. Nous avons pris un nouvel engagement de le suivre fidèlement en prenant ce repas. Il est toujours dit que nous devons nous éprouver, sonder notre cœur, non pas comme une sorte d'introspection pour savoir quel péché nous avons pu faire, parce que comme cela, le malin pourrait en profiter et nous enlever l'assurance du salut et de la vie éternelle, mais nous éprouver pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est exactement ce que dit le texte, la foi en Christ. Je ne me suis pas approché de la table du Seigneur en disant « qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait cette semaine ?» Je me suis approché de la table du Seigneur en disant « je me réfugie dans ta grâce ». Et vous l'avez fait aussi. Et vous avez renouvelé votre engagement. Alors le Seigneur lui-même va nous garder et nous pouvons nous réjouir parce qu'il est fidèle et l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. Que Dieu vous bénisse.